Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, de nouveaux incidents sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, 42 Palestiniens ont été blessés. Ancien député européen Patrick Le Yarrick regrette le manque d'implication de l'Union européenne et des États-Unis sur le dossier israélo-palestinien. La visite en Arabie Saoudite de Recep Tayyip Erdogan, les questions économiques au menu des entretiens du président turc avec les responsables saoudiens. L'ONU affirme que 3000 migrants sont morts en mer l'an dernier en essayant de rejoindre l'Europe. L'élection présidentielle française vue du Maroc, nous écouterons le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksi. La défenseure des droits appelle au retour en France des enfants de djihadistes français actuellement présents dans des camps en Syrie. Enfin, un premier cas de grippe aviaire détecté chez un être humain. Il s'agit d'un enfant contaminé en Chine. À Jérusalem, 42 blessés dans de nouveaux incidents sur l'esplanade des mosquées, un bilan donné par le Croissant Rouge palestinien. En ce dernier vendredi, avant l'Aïd el-Fitr, de jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur la police qui a tiré des balles en caoutchouc. 22 personnes ont été transportées dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave. Les incidents se sont multipliés à Jérusalem depuis le début du Ramadan. Plus de 250 Palestiniens ont été blessés ces deux dernières semaines près de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Des incidents qui se déroulent dans l'indifférence de la communauté internationale. C'est ce que regrette Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen.
Il y a des incidents graves parce que la direction israélienne poursuit son projet d'annexion totale de la Palestine à l'État d'Israël, son projet de colonisation du mur, son projet de destruction des maisons à Jérusalem. Donc il y a face à ça de la rébellion. Et cette rébellion a d'ailleurs conduit à une fissure dans la coalition qui avait été faite lors de l'accession de M. Bennett aux affaires.
Vous regrettez que l'Union européenne ne s'intéresse pas beaucoup aujourd'hui à la situation palestine ?
Non, je crois qu'elle ne s'intéresse pas du tout. Je ne dis pas que les services diplomatiques sur place, européens comme français d'ailleurs, ne font pas leur travail. Mais la question, elle est politique, c'est-à-dire les dirigeants politiques, les chefs d'État et de gouvernement, la Commission européenne, elle-même, voire peut-être même la haute autorité pour l'Union européenne, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères européennes, je crois qu'ils se désintéressent beaucoup de cette question. Alors je sais qu'il y a des conditions qui portent à ça, avec l'affreuse guerre que mène Poutine contre l'Ukraine. Ceci dit, on ne peut pas dissocier les problèmes. Et là, je crois qu'on ne peut pas laisser faire, comme on le fait aujourd'hui, l'impunité de la direction israélienne contre les Palestiniens.
Côté américain aussi, Joe Biden n'est plus impliqué sur le dossier israélo-palestinien ?
Non, il semblerait qu'il ne fait plus rien. Vous vous rappelez sans doute que quand il était le vice-président de M. Obama, au moment de passer le pouvoir, lui avait demandé d'aller prononcer un discours important au Caire en Égypte, et en effet ce discours était important et très intéressant. Bon, Trump a balayé tout ça, mais aujourd'hui M. Biden n'a pas repris l'angle, il n'a pas nommé d'émissaire pour tenter d'arrêter la colonisation, l'annexion et la destruction des maisons en Israël, et donner un peu de liberté aux populations et aux responsables politiques palestiniens. Donc il est assez absent de ce sujet-là, et vraisemblablement, il considère que, alors qu'on est à l'élection de mi-mandat, comme cela va avoir lieu bientôt, il a plus à montrer les dents contre la Chine et Poutine pour garder une majorité démocrate que de s'occuper des autres affaires du monde qui sont également très très importantes, parce que il ne faut pas croire que l'effet de la guerre en Ukraine n'aura pas de conséquences sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, ne serait-ce que en approvisionnement alimentaire pour l'Égypte, pour un certain nombre d'autres, et évidemment pour les Palestiniens. Donc on va continuer d'étouffer ce peuple dans le silence, ce qui est inadmissible. Il faudrait prendre des initiatives nouvelles. D'ailleurs, moi, je compte me rendre là-bas au courant du mois de juin pour me rendre compte de ce qui se passe et de voir ce qu'on peut faire de plus que ce qui ne se fait malheureusement pas aujourd'hui.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen. Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier en Arabie Saoudite. Le président turc a été accueilli par le roi Salman et le prince héritier Mohamed Ben Salman. Une visite qui intervient alors que la Turquie est frappée par une crise économique sans précédent. Le pays fait face à une inflation de plus de 60% sur un an. Plus de 3000 migrants sont morts en mer l'an dernier en essayant de gagner l'Europe. C'est ce qu'a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La plupart des traversées en mer se font à bord de bateaux gonflables, bondés et en mauvais état. Selon le HCR, un grand nombre de ces embarcations se dégonflent ou chavirent, entraînant le décès des occupants. L'élection présidentielle en France vue du Maroc. Comment la présence de l'extrême droite au second tour a-t-elle été perçue? Comment cette élection a-t-elle été couverte par la presse marocaine? Je vous propose d'écouter le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy.
Il y a d'abord un chiffre très significatif, celui des Français qui vivent au Maroc. Il y en a à peu près 80 000, dont la moitié sont des binationaux, et donc... Au premier tour, Mélenchon a obtenu plus de 47%. C'est vraiment un chiffre impressionnant et très significatif de l'état d'esprit des Français. Je parle des Français et des binationaux ici au Maroc. Cela veut dire qu'il y a eu au Maroc ce qu'on appelle le vote utile. Et ce vote était dirigé aussi bien contre la politique de Macron que contre l'extrême droite, faire face à l'extrême droite et surtout à la menace de Marine Le Pen et de Éric Zemmour. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ici, je parle bien sûr des Marocains qui suivent l'actualité française et qui sont francophones et qui s'intéressent à la politique française pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des francophones avec une culture francophone, etc. Mais aussi parce que, comme vous le savez, nous avons une très forte communauté de Marocains vivant en France et de Français d'origine marocaine, et l'attachement au Maroc a toujours été très très fort. Donc la principale crainte pour les Marocains qui vivent ici, c'est la menace de l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et Zemmour. Donc le premier tour, évidemment avec le score tout à fait bas de Zemmour, a été assez réconfortant, mais il y avait toujours la menace de Marine Le Pen qui reste malgré tout ce qu'elle a fait, malgré toutes les remises en cause et toute sa stratégie de dédiabolisation, elle est restée aux yeux de la majorité des Marocains comme la fille de son père, c'est-à-dire l'incarnation d'un parti raciste, xénophobe, anti-immigration, anti-musulman, etc., etc. Cette image est restée malgré tout et surtout avec le score qu'elle a obtenu au premier tour, mais aussi au deuxième tour. Donc, après les résultats du deuxième tour, il y a eu vraiment un grand soulagement, un grand ouf de la part de la majorité des Marocains. Mais pour les Français qui vivent ici, ou les Franco-Marocains, et même pour une partie Les Marocains, comme je vous l'ai dit, c'est francophone, très très attaché à la France, à la culture française, qui ont des intérêts en France. Macron a suscité beaucoup beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions.
Dans quel domaine a-t-il suscité beaucoup de déceptions?
Il a suscité beaucoup de déceptions parce que il n'a jamais eu de décision forte pour affaiblir, je dirais, l'extrême droite. Il n'a pas eu de décision forte, symbolique, qui vont dans le sens d'un affaiblissement de cette campagne anti-musulmane qui dure maintenant depuis plusieurs années. Donc, pour beaucoup de Marocains qui ont voté, parce qu'il ne faut pas l'oublier, pendant les dernières présidentielles, celle de 2017, la majorité des Français vivant au Maroc et la majorité des binationaux ont voté à une large majorité pour Macron. Mais il n'en demeure pas moins que pour le Marocain lambda, les élections présidentielles restent liées à la question de l'extrême droite et à la menace qu'elle représente.
Quelles sont les mesures présentées par l'extrême droite qui suscitent aujourd'hui le plus de craintes au Maroc et notamment de la part des binationaux?
Moi, je pense que c'est plus le discours que les mesures. Ici, tout le monde sait que la décision de Marine Le Pen d'interdire le voile en public est complètement irréaliste et incohérente, ça tout le monde le sait. Mais c'est le discours anti-musulman et anti-immigration, et surtout anti-musulman, qui est devenu totalement banalisé. Donc c'est surtout le discours ambiant véhiculé par les chaînes satellitaires françaises qui a toujours suscité de l'indignation et qui a suscité beaucoup de révolte, je dirais, et d'incompréhension de la part aussi bien des Français, des binationaux qui vivent ici au Maroc que par rapport aux Marocains. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Marocains captent les chaînes françaises.
La presse marocaine, notamment, déplore une banalisation de l'extrême droite en France.
Tout à fait. La presse marocaine s'est beaucoup intéressée aux élections présidentielles. Et le discours et les textes, les articles qui ont été consacrés à cet événement focalisent sur la question de l'immigration, sur la question de ce discours banalisé anti-musulman, ouvertement anti-musulman. Il ne faut pas oublier que Zemmour était condamné et recondamné pour des propos racistes, diffamatoires, anti-musulmans. Et quand on voit ce discours-là au cœur de la campagne électorale, évidemment, on a toutes les raisons d'être choqué et de sentir non seulement de la crainte, mais aussi de l'indignation.
Et il y a un réel intérêt au Maroc pour la politique française, c'est un élément intéressant aussi.
Il y a un réel intérêt, il y a beaucoup d'intérêt, parce que d'abord nous avons des liens culturels très très importants, nous avons des liens économiques, la France est le premier partenaire économique, le Maroc c'est le pays où il y a le plus de lycées, de collèges, de centres culturels français au monde. Nous avons une communauté de près d'un million de Marocains et de Français d'origine marocaine très attachés au Maroc et qui viennent chaque année visiter leur pays, donc il est tout à fait normal que beaucoup de Marocains s'intéressent à ce qui se passe en France.
Vous êtes professeur d'université, notamment vos étudiants ont abordé cette question en parallèle des cours?
Oui, on en a abordé parce que j'enseigne une matière qui s'appelle les systèmes politiques démocratiques. Évidemment, j'enseigne le régime de la Ve République. Et évidemment, ça n'a pas manqué de susciter quelques éclats à l'amphi dans le sillage des élections présidentielles. Et bien sûr, le sujet qui revient, c'est cette incompatibilité entre les valeurs de la constitution de la Ve République et de la Révolution française et le climat de haine et de racisme et de xénophobie qui règne en France et particulièrement véhiculé par les médias. Et ce phénomène dont vous parlez, la banalisation de la xénophobie et du racisme. Donc évidemment, dès qu'on parle de la politique en France, on ne peut pas éviter ce sujet, ce qui est vraiment malheureux.
Le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy au micro de François-Xavier de Calonne. La défenseure des droits Claire Hédon demande au gouvernement de rapatrier tous les enfants français retenus dans plusieurs camps dans le nord-est syrien. Selon elle, ces enfants de djihadistes sont exposés à des traitements inhumains et dégradants qui engagent la responsabilité de l'État français. Évoquant l'intérêt supérieur des enfants, la défenseure des droits estime que leurs droits fondamentaux sont actuellement violés. Kiev a été la cible hier de frappes russes alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était en visite dans la capitale ukrainienne. Ces bombardements ont visé deux bâtiments, dont un immeuble résidentiel, et bilan au moins un mort et une dizaine de blessés. C'est la première fois qu'un cas de grippe aviaire est détecté chez un être humain. Cela s'est passé en Chine. Un petit garçon de 4 ans, vivant dans la province du Henan, a été testé positif à la souche H3N8. Le ministère de la Santé chinois précise cependant que le risque de transmission entre humains est faible. L'invité de Pluriel à 19h ce vendredi est Philippe Benahassaya, député LR des Yvelines, ancien maire de Bois d'Arcy. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.